Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. L'Iran fêtait aujourd'hui le 40e anniversaire de la révolution islamique qui a chassé le Shah et amené au pouvoir l'Ayatollah Khomeini et son successeur Ali Khamenei. 40 ans de pouvoir des mollahs chiites et de relations complexes avec les voisins sunnites et le reste du monde, notamment occidental, entre soutien au terrorisme, influence régionale grandissante, programme nucléaire et balistique comme enjeu diplomatique mais aussi économique, besoin de se développer et de commercer, soif de liberté d'une jeunesse qui n'hésite pas à le dire malgré la répression. L'Iran reste un pays complexe. Est-il devenu un pays fréquentable? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Delphine Haut, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche de Paris, membre de la Commission des Affaires étrangères, présidente du groupe d'amitié France-Iran à l'Assemblée nationale et spécialiste de l'Iran. Et Bernard Ourcade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Iran, auteur de « Géopolitique de l'Iran, les défis d'une renaissance » chez Armand Collin. Et de « Ce fut vraiment une révolution », c'est la préface de l'ouvrage « Iran Révolution » de Michel Stéboun. C'était il y a encore quelques mois. L'Iran revenait dans le jeu diplomatique et dans la communauté internationale par la grâce de l'accord nucléaire. Le pays renonçait officiellement à son programme nucléaire pour obtenir la levée des sanctions occidentales et notamment américaines. Et très franchement, on n'aurait sans doute pas posé la question comme on la pose aujourd'hui si les États-Unis de Donald Trump n'avaient pas répondu clairement non à cette question. Pourquoi les États-Unis tiennent tellement à sanctionner l'Iran, Delphine Haut?
Ouais, comme vous l'avez dit, tout allait bien, tout allait mieux jusqu'à ce que arrive Donald Trump. Il se trouve que moi j'habitais en Iran en 2015, l'année de l'accord, et on a vu énormément d'espoir. Je crois que Donald Trump s'est jamais caché de ce qu'il avait l'intention de faire dès la campagne. Il a dit que cet accord était le pire accord jamais signé par les États-Unis. Il y a énormément d'idéologie et peu de pragmatisme de la part des États-Unis. De toute façon, ils avaient décidé qu'ils allaient se retirer de l'accord et qu'il faut absolument punir l'Iran, puisque du point de vue américain, du moins de cette administration, l'Iran est responsable d'absolument tous les maux de la région. Alors l'Iran a contribué à certains maux de la région, mais il est certainement pas le seul responsable.
Est-ce que ça vous a surpris de la part des États-Unis qu'on revienne sur la parole de l'Amérique comme ça, Bernard?
Non, c'est d'abord un problème, parce que les États-Unis sont ceux qui ont construit le multilatéralisme après la Seconde Guerre mondiale, et donc de voir les États-Unis déchirer un accord international de cette nature-là, signé par le président américain, il y a quand même une rupture américaine. Mais le problème important, c'est que la révolution iranienne a eu lieu il y a 40 ans. La gestation, en fait, a duré 40 ans. Elle est née, cette révolution, l'Iran nouveau, la République islamique d'Iran, est née, en fait, le 14 juillet 2015. C'est la première fois que les Américains ont dit République islamique d'Iran et ont reconnu le régime, qui devait tomber tous les 15 jours. Il a fallu 40 ans pour qu'il existe. Et donc, enfin, les Iraniens étaient un pays normal, il y a 2 ans maintenant, 3 ans de ça. Et c'est ça qui a fait, je crois, qui explique l'opposition américaine. C'est justement parce que l'Iran devenait un pays fréquentable que c'était impossible. Pendant 40 ans, l'Iran était infréquentable et brutalement, l'Iran avait abandonné sa politique d'expansion terroriste, etc., était devenu un pays développé, un pays qui avait une grande ambition, économiquement beaucoup de projets, et donc tout allait très bien. L'Iran n'avait pas pris Raqqa ni Mossoul, l'Iran n'était pas terroriste, et donc devoir revenir l'Iran était changer complètement les choses. Et c'est ça qui peut-être explique le paradoxe d'aujourd'hui.
Delphine, vous l'avez dit, l'influence régionale iranienne est grandissante. Vous l'avez évoqué, il y a une part de responsabilité dans ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y avait le Liban avec le Hezbollah, il y a aussi désormais la Syrie en soutien au régime de Bachar al-Assad, le Yémen avec le soutien aux milices houthis, de l'influence également en Irak. Est-ce que l'Iran est un facteur de déstabilisation dans la région? Ou est-ce que juste elle reprend sa place?
Bon, effectivement, l'Iran est une grande puissance régionale, c'est quand même 80 millions d'habitants, c'est une population très éduquée, beaucoup plus éduquée que dans la plupart, notamment des pays du Golfe, une classe moyenne importante et qui a donc une place légitime dans la région. Il faut un peu distinguer tous les pays que vous avez cités, à la fois le Liban, où effectivement avec le Hezbollah, il y a une influence, la Syrie et le Yémen, c'est plutôt de l'opportunisme, c'est pas l'Iran qui a provoqué la guerre civile syrienne, ni la guerre au Yémen qui était le premier à s'y engager. En revanche, il y a un couloir qui a été ouvert par des actions souvent malencontreuses, pas très stratégiques, de la part des pouvoirs en place ou de la part de son grand rival, l'Arabie Saoudite. Et l'Iran s'y est facilement engouffré et a profité un peu de la détérioration de la situation, a contribué à la détérioration de la situation, notamment en Syrie. Et au final, est un peu le grand vainqueur dans la plupart de ces conflits ou de ces potentiels conflits dans la région, sans forcément les avoir provoqués. Mais là, on voit qu'il y a une longueur de vue assez caractéristique des Iraniens, alors que du côté saoudien ou du côté des pays du Golfe, on voit peut-être un peu plus à court terme.
Bernard Ourcade, je vous ai vu tiquer, les auditeurs ne l'ont pas vu, mais moi oui.
Oui, parce que je pense qu'effectivement, l'Iran a connu une maladresse. L'Iran est un pays qui n'a jamais été impérialiste, c'est-à-dire impérialiste qui est capable de prendre le territoire qui est à côté, de contrôler durablement. Les Iraniens sont iraniens, ils ne sont pas arabes ni turcs, ils sont en majorité chiites et pas sunnites, etc. Donc ce qui fait qu'ils n'ont jamais, ils n'ont pas la possibilité technique, même militairement aujourd'hui, l'armée iranienne est incapable d'occuper un territoire de 50 km² pendant plus de 15 jours. Donc l'Iran est un pays qui n'a pas cette tradition d'impérialisme, de conquête de territoire extérieur. Mais l'Iran est une île, un peu isolée dans le Moyen-Orient. Et donc, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est de toujours ça, depuis des milliers d'années. Autrement dit, aujourd'hui, l'Iran cherche des alliés ici et là. Et donc, en recherchant un allié au fin fond du Yémen, au fin fond de l'Afghanistan, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Irak, en Syrie, il va donner l'impression qu'il est partout. Mais en fait, c'est un soutien qui est ponctuel. C'est une espèce d'archipel de minorité. Mais il ne faut pas oublier que ce qui se passe, c'est que le 11 septembre 2001, autant que je sache, c'était pas l'Iran. Le Bataclan, c'était pas l'Iran. La prise de Mossoul de Raqqa, ce n'était pas l'Iran. Et pendant 40 ans, au contraire, on s'étonne, ce que l'Arabie Saoudite et monarchie pétrolière ont acquis dans toute la région un pouvoir considérable dans tout le monde musulman, y compris dans nos mosquées de France ou de Belgique. Et on dit, les Iraniens sont là, effectivement, maladroits, c'est une évidence, mais regardez le rapport de force. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'Iran, effectivement, maintenant, arrive pour contrebalancer l'influence saoudienne. Et évidemment, c'est un danger pour tout le monde.
Delphine Haut, vous êtes d'accord avec cette analyse? Le pays ne fait-il que se défendre, quelque part, contre l'activisme saoudien dans la région?
C'est un peu le problème quand on parle aux Iraniens et aux Saoudiens, c'est que les deux, chacun a l'impression de se défendre de l'autre. Donc on se demande qui est le plus impérialiste et qui est le plus menaçant pour l'autre. Et pour avoir été aussi en Arabie Saoudite l'année dernière, je me suis rendue et en Arabie Saoudite et deux fois en Iran, il y a vraiment aussi un sentiment en Arabie Saoudite d'être attaqué par l'Iran ou d'être potentiellement attaqué par l'Iran, notamment par un certain nombre de missiles qui ont été tirés du Yémen, vous citiez le Yémen, et qui sont arrivés en Arabie Saoudite. Le jour où je suis arrivée à Riyad, il y a un missile qui s'est écrasé pas très loin, donc il y a aussi ce sentiment légitime d'être potentiellement la proie des Iraniens. Après, effectivement, le financement du terrorisme, on parle beaucoup de l'Iran, mais ça a été quand même principalement l'Arabie Saoudite jusqu'à un certain moment, et puis d'autres pays du Golfe. Aujourd'hui, il faut distinguer les pays. En Syrie, clairement, il y a un soutien affiché, assumé un barbare, qui est Bachar el-Assad, mais ceci dit, qui a toujours été le seul pays arabe qui a soutenu l'Iran. Et donc, il y a une alliance stratégique qui est assumée, même si les Iraniens n'apprécient pas particulièrement les méthodes de Bachar el-Assad. Mais en tout cas, il est hors de question que ce pays tombe, surtout sous influence saoudienne. Et puis, on a oublié de parler quand même d'Israël aussi. Et des États-Unis. Vous demandiez tout à l'heure pourquoi cet acharnement des États-Unis contre l'Iran. Il y a quand même un lobby très important. Il y a une influence très importante à la fois du Premier ministre israélien et du prince héritier saoudien qui, rappelons-le, Benjamin Netanyahou était venu au Congrès au moment de l'accord pour aller plaider contre l'accord. Et
on c'est quand même une très grande victoire. On se souvient de cette conférence de presse en anglais à l'heure de grande écoute pour les réseaux d'information américains qui dénonçaient l'activisme nucléaire de l'Iran. Effectivement, Israël se sent menacé par la présence iranienne en Syrie, en plus du Liban. C'est-à-dire que est-ce qu'Israël se sent cerné par les Iraniens, Bernard Ourcade?
Cerné, non. Il faut d'abord voir que l'Iran était dans la logique de Ben-Gourion, le deuxième cercle au-delà des pays arabes. Et donc, Israël, dans son début, a toujours soutenu les Turcs, par exemple, les Iraniens qui étaient derrière les pays arabes. Et cette stratégie existe toujours. Aujourd'hui, que l'Iran est frontalier d'Israël, en quelque sorte, via le Hezbollah ou la situation en Syrie, c'est une situation nouvelle. L'Iran n'est plus dans sa position habituelle. Mais il faut voir ce qu'a dit récemment la CIA ou ce que disent les services israéliens ou l'armée israélienne, qui sont beaucoup plus rationnels que Netanyahou ou Trump. Et ils disent, l'Iran est là, c'est un pays qui a une ambition d'être une puissance régionale dans tous les domaines, qui font une politique qu'ils ne maîtrisent pas en envoyant 3 ou 4 roquettes sur Israël, ça rime à rien et ça crée des incidents diplomatiques. Mais ces gens sérieux des services de renseignement disent il faut prendre au sérieux l'Iran et non pas le traiter comme un gamin et comme un pays terroriste, comme un pays rock state, un État qui n'est pas fréquentable, mais au contraire, retroussons-nous les manches et voyons comment l'Iran peut émerger normalement aujourd'hui.
Oui, je crois qu'il y a une inquiétude légitime. J'étais aussi en Israël peu de temps après avoir été en Iran et en Arabie Saoudite, et donc il faut vraiment écouter quelles sont les inquiétudes de chaque pays. C'est la première fois qu'il y a des positions iraniennes militaires qui sont aussi proches de la frontière israélienne. Après, effectivement, comme le dit Bernard Ourcade, quand on écoute à la fois la défense, enfin le ministère de la Défense israélien et les services de renseignement, ils disent « nous connaissons nos lignes rouges ». Les Iraniens connaissent leurs lignes rouges et donc l'idée c'est de ne pas de faire en sorte que chacun ne franchisse pas sa ligne rouge, mais évidemment ça n'est pas du tout agréable et c'est aussi une inquiétude de la part d'Israël d'avoir les Iraniens si près.
Parlons du régime iranien. Il y a des élections avec des tendances qui s'affrontent, les conservateurs contre les réformateurs. Est-ce qu'on peut pour autant parler de régime démocratique, Bernard Ourcade ?
Démocratique non, mais républicain certainement. En 2009, il y a eu des élections qui ont été un peu frauduleuses. Les Iraniens ont dit « Où est mon vote ?» Preuve que les Iraniens ont adopté le système électoral. Ils veulent des élections, ils veulent des élections normales. Alors elles sont comme elles sont, mais c'est une dynamique qui est très importante. Et une des conséquences de la révolution, des principales conclusions, c'est ça. L'Iran est devenu une république qu'elle a perfectionnée. Et donc les Iraniens ont une ambition de démocratie, ce qui n'était pas le cas à l'époque du Shah. Donc la démocratie est en marche, comme on dirait aujourd'hui en France, mais et ça marche assez rapidement. La preuve est que aujourd'hui les nouvelles générations, qui ne sont pas les jeunes tellement, mais les jeunes adultes de 25 à 50 ans, qui sont nés après la révolution, ils rêvent non pas d'une révolution encore, mais ils rêvent de compléter les idéaux de la révolution qui étaient indépendance, liberté, république. Et ces idéaux-là, ils sont toujours ancrés en Iran.
C'est un pays jeune, les révoltes de la jeunesse et des femmes notamment qu'on voit retirer leur voile sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elles menacent le régime vraiment ou le régime vit très bien avec Delphino ?
Le régime a très bien survécu pendant 40 ans et c'est bien l'erreur des Américains de croire que chaque année on va renverser le régime. Il y a effectivement une forte demande sociale comme il y avait une forte demande économique qui a sous-tendu en fait l'ouverture économique que devait apporter ce fameux accord nucléaire qui a été dénoncé par les États-Unis. Et il y a eu surtout un grand espoir avec l'élection du président actuel qui en est à son deuxième mandat, donc première élection 2013, qui avait fait aussi campagne sur un peu un relâchement du code très strict et des règles très strictes qui encadrent la vie des Iraniens. Après, les Iraniens n'ont pas toujours attendu que le régime leur donne des libertés. Ils savent aussi les prendre parfois eux-mêmes. Ils savent très bien jouer avec les lignes rouges, notamment celles des codes vestimentaires. Moi, j'ai une femme, j'ai vécu en Iran, j'ai vu comment les Iraniennes portent le voile. Alors, c'est sûr que c'est toujours une règle, mais ils ont toujours réussi à un peu trouver des compromis avec la règle et pour cela, ils sont vraiment très forts.
Bernard Ourcade, oui.
Oui, il faut d'abord voir que, petit détail, l'Iran n'est pas un pays de jeunes. L'Iran est le pays le plus vieux du Moyen-Orient en moyenne d'âge. Parce que les moins de 20 ans sont peu nombreux, puisque le nombre d'enfants par femme en Iran est bien moindre que la France. Donc depuis 20 ans, les moins de 20 ans sont peu nombreux. Les 25-50 ans, par contre, sont la majorité. Et donc la société a changé, parce qu'elle est là, et c'est une société ouverte depuis les révolutions blanches du Shah des années 60. Et cette dynamique, elle est là. Mais ce qui est intéressant, si aujourd'hui, 40 ans plus tard, le régime islamique qui devait disparaître en 15 jours est toujours là, c'est parce que justement les religieux et les mollahs ne sont pas des imbéciles.
D'ailleurs, Hassan Rouhani le faisait remarquer dans son discours aujourd'hui, hein. Pour l'anniversaire, ça devait être fait en novembre, et puis au 1er janvier, et puis le 11 février, et finalement on est toujours là, c'est ce qu'il disait.
Et ce qui est important, c'est que les religieux, ils ont leur caractère, on les connaît bien, ils ont pris le pouvoir. C'est pas tellement l'islam qui a pris le pouvoir que les religieux en groupe social, qui connaissent les gens, ils sont dans leur mosquée, dans leur paroisse, si vous voulez. Et donc, ils ont toujours été capables de s'adapter. La preuve, le guide de la République islamique est très opposé aux États-Unis, très opposé à tout compromis avec les États-Unis, mais ils ont signé l'accord sur le nucléaire. Ils sont capables d'adaptation. Et c'est la différence fondamentale qu'il y a peut-être entre l'Iran et les révolutions des pays arabes, c'est que dans les pays arabes, il n'y avait pas un clergé pour gérer la révolution islamique après. En Iran, il y avait un clergé, nombreux, efficace, qui était capable de gérer à sa méthode la révolution islamique.
Les sanctions américaines mettent-elles vraiment le régime iranien en difficulté ou est-ce qu'au contraire, elles permettent d'avoir un ennemi et de se renforcer, Delphine ?
En fait, économiquement, ce qui ressort des 40 dernières années où l'Iran était de facto sous embargo aussi, c'est qu'ils ont une capacité d'adaptation. Vous parliez de l'adaptation des religieux à la société, mais il y a aussi une capacité d'adaptation du système économique aux sanctions. Donc je pense qu'ils s'en sortiront d'une certaine manière. En revanche, la pression...
Ils ont presque, en fait, parce que ils ont presque l'habitude de vivre en quasi-autarcie.
Ah bah, ils ont complètement l'habitude. Ça fait 15 ans, même plus de 15 ans qu'ils vivent dans ce système, et aussi de contourner les règles des sanctions, hein, puisque il y a eu pas mal de choses un peu illégales qui ont été faites. La pression, elle est plutôt sociale. Ce gouvernement, qui est un gouvernement d'ouverture, des réformismes, a été élu sur une promesse, la promesse de l'ouverture de l'Iran au monde. Et cette promesse, de facto, elle ne peut pas être tenue, principalement du fait de la décision des Américains, mais aussi un certain nombre de réformes économiques et sociales qui n'ont pas été faites sous les deux mandats de Rouhani. Donc la pression, c'est plutôt celle du peuple qui dit, qui demande des comptes à son gouvernement en disant « vous nous aviez promis quelque chose, cela n'arrive pas ».
Les conservateurs, et donc le clergé en fait, hein, disent qu'ils ne croient pas à l'accord nucléaire, qu'ils n'y ont jamais cru. Pourquoi est-ce que les Européens tiennent tant à son maintien, Bernard Ourcade ?
C'est une question d'abord de sécurité. Si les Iraniens relançaient le programme nucléaire, ça veut donc dire que les pays voisins le feraient, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et comme une autre pays. Ils ont une question de prolifération qui est un danger, qui avait été éliminé et qui est toujours éliminé par les Iraniens. Donc aujourd'hui, les pressions sont très fortes pour qu'effectivement, essayer d'accompagner l'Iran, qui est un pays émergent, un pays qui peut être fréquentable, les feux sont au vert en quelque sorte, sauf qu'aujourd'hui on ne sait pas trop où on va, parce que cela renforce effectivement les plus radicaux qui disent, vous voyez, les Américains sont des menteurs, on a bien raison d'être ferme, il faut donc relancer le nucléaire et relancer l'agressivité. Et cette tendance-là existe malheureusement en Iran, même si elle est minoritaire.
Est-ce que c'est toujours une possibilité de continuer à commercer avec l'Iran, à avoir des échanges avec l'Iran pour les Européens, qui sont donc en retrait par rapport aux Américains sur cette question, Delphino ?
C'est ce qu'on essaye de mettre en place, c'est ce qu'on essaye de permettre. Donc comme vous le savez, les sanctions américaines, elles ne frappent pas seulement les entreprises américaines, mais aussi toutes les entreprises mondiales et notamment les entreprises européennes. C'est le problème de l'extraterritorialité de ces sanctions américaines.
Les plus grandes entreprises européennes se sont retirées.
Hein, oui, de facto, Total s'est retiré, les entreprises automobiles se sont retirées, parce que de toute façon, leurs intérêts économiques aux États-Unis sont tels que le choix est rapidement fait entre le commerce aux États-Unis et le commerce en Iran. En revanche, ce que les Européens ont fait, et ça c'est vraiment une première, c'est essayer de se rassembler pour mettre en place donc quelque chose qui a été annoncé la semaine dernière, qui s'appelle
le mécanisme Instex.
Voilà, exactement. Qui en fait vraiment est un mécanisme de troc version 21e siècle. L'idée étant que pour échapper à la domination du dollar, qui permet aux Américains d'infliger des sanctions, on fait du commerce, on fait une transaction, mais sans argent, sans échange d'argent, et on fait des équivalents. À voir ce que ça va donner. Ce véhicule, voilà, il va être basé en France avec un directeur général allemand. On a réussi à avoir le soutien de la plupart des Européens, ce qui est déjà important, mais à voir aussi si notamment, par exemple, les Chinois, les Indiens aussi rentrent dans le jeu.
Ça peut aller jusqu'où ? On parle surtout des PME, en fait. Hein,
Oui, pour l'instant, tout est interdit. Il est interdit. Vous ne pouvez pas envoyer 10 dollars en Iran ou recevoir 10 dollars d'Iran. Tout est bloqué pour l'instant. Mais le système européen est important. Ça ne sera pas un succès économique fantastique parce que les grandes entreprises ne pourront pas passer par cela. Mais c'est politiquement quelque chose de tout à fait nouveau. Les Américains, on en parlait au début, rompent les relations multilatérales. Ils renoncent à l'accord mondial sur le commerce. Tous les accords internationaux, ils les déchirent. Là, c'est de création faite par les Européens, c'est la première fois qu'il y a un système qui est balbutiant de commerce qui ne passe pas par le système américain qui domine le monde depuis 80 ans.
Mmh. Et ça, d'ailleurs, Donald Trump l'a très bien compris, puisque quand il a appris le lancement de Instex, je crois qu'il avait été annoncé par Federica Mogherini à New York en septembre, on dit qu'il est rentré dans une colère noire. Mmh. Donc ça ne va pas être une menace économique pour les États-Unis, mais une menace politique.
L'activisme iranien en Europe, il y a des tentatives d'assassinat qui ont été dénoncées par le gouvernement français, il y a le programme balistique aussi. Est-ce que tout ça, ça rend pas les choses quand même assez difficiles pour les Européens, Bernard Ourcade ?
Oui, il est certain que des factions iraniennes qui visaient plutôt le gouvernement iranien que les opposants à l'étranger ont assassiné des gens ici et là où il y a des tentatives de ce type-là. C'est une réalité que le gouvernement a rapidement contrôlée. Quant aux missiles, il faut voir que Téhéran est avec Londres et Berlin, et Londres et Anvers, c'est la seule ville qui a reçu des missiles pendant une guerre. Et donc les Iraniens qui n'ont pas de moyens de défense, n'ont pas de missiles, sont bien obligés d'avoir leurs propres missiles. Et c'est une question de défense nationale. Donc là, on est mal averti si on cherche à battre les Iraniens sur ce niveau-là.
Est-ce qu'ils jouent un double jeu en quelques secondes, Delphine O? Est-ce que c'est des interlocuteurs un peu incertains, les Iraniens?
Je dirais pas que c'est un double jeu. C'est déjà un régime où il y a de multiples centres du pouvoir. On a trop tendance à croire qu'une seule personne, le guide suprême, décide pour tout le monde. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a le gouvernement, il y a aussi les gardiens de la révolution, il y a le clergé, il y a beaucoup de centres du pouvoir. Et il y a parfois quelques factions du pouvoir qui partent un petit peu de leur côté sans consulter les autres.
Merci Delphino, merci également Bernard Hourcade d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui un duo, Hélène Avril et Luna Timbal. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.